d'abord hier on a dit un petit mot des foyers amis. Depuis, on a eu plusieurs questions, donc on va revenir sur deux, trois petites choses. Alors d'abord, certains d'entre vous nous ont demandé comment se passait la préparation de la session, parce que nous sommes plusieurs foyers amis à donner des témoignages. Alors on va être très franc. Tout d'un coup, on reçoit un mail de Père Bernard avec la liste et les droits à côté. Donc voilà, l'obéissance fait que.
C'est personne
du Nord. Et voilà, si on a qui ne peuvent pas venir, et bien en général, c'est les frères ou les sœurs qui prennent le relais. Donc voilà, mais ça se passe bien finalement, personne ne va trop. Oui, mais non, mais justement, on va y venir. Alors voilà, donc c'est vrai que ces sessions sont très importantes pour voir tous, pour notre formation, parce que par tout ce que nous dit Père Bernard et par le travail que chacun fait sur un thème précis. C'est important parce que voilà, c'est aussi la mission qu'on a auprès de la communauté. C'est important pour nous parce que ça nous permet de nous retrouver aussi entre foyers amis, de nous retrouver tous, mais nous au sein des foyers amis, ça nous permet aussi de nous retrouver, de nous connaître mieux parce que certains qui au départ n'auraient peut-être pas été, n'auraient peut-être pas eu envie de faire leur témoignage et on apprend des choses extra et on les découvre d'une façon qui nous réjouit. Voilà, c'est très riche. Donc voilà, il y en a qui commenceront sûrement et puis d'autres qui n'ont pas encore parlé qui vont mettre un petit peu plus au travail, hein, quand même. Hein. Et puis voilà, oui. Non, c'est vrai que c'est très important. Et voilà, le Père d'Or, on souhaitait beaucoup ses foyers amis. C'est vraiment lui qui l'avait voulu. Et c'est vrai que l'essentiel de notre engagement, c'était vraiment, comme le plaît de Père, c'était vraiment de nous faire marcher sur le chemin de la sainteté conjugale avec l'aide de la communauté. Voilà, pour cette sainteté conjugale, s'épauler les uns les autres et vraiment vivre entre nous un très très grand esprit de famille. C'est le charisme, ce qu'on disait hier, c'est vraiment l'esprit de famille, c'est le charisme de la communauté et sa spécificité avec le père et la mère. Voilà, donc c'est ce qu'on veut vivre d'essentiel dans ce cheminement de la sainteté conjugale, ce qu'on veut vivre d'essentiel malgré les difficultés. Voilà, d'éloignement géographique, etc. C'est essayer de vivre entre nous un véritable esprit de famille à l'image de la communauté. C'est vraiment ce que fait. Donc voilà.
Cette introduction étant faite, le thème qui nous était proposé par Père Bernard, c'était donc les foyers amis qui l'écoutent de la parole de Dieu. Alors les premiers mots que nous avons vus et retenus sur ce sujet étaient donc la parole de Dieu, ça nous a semblé évident. Et ensuite, on s'est arrêté longuement sur le mot écoute. Parce que finalement, à quoi sert la parole de Dieu si on n'écoute pas? Il nous faut bien évidemment écouter pour transmettre, puisque la transmission de la foi est le thème de cette session. Écouter en termes bibliques, ça veut aussi dire obéir à l'ordre de Dieu, on y reviendra tout à l'heure. On va commencer donc par un rappel de certains textes sur la parole de Dieu, et puis ensuite on parlera de l'écoute. Alors la parole de Dieu, récemment, à Rome, dimanche 9 mai 2010, aimer, lisez et méditez la parole de Dieu, nous exhorte Benoît XVI, en s'adressant spécialement aux familles. Benoît XVI s'est adressé aux jeunes des JMJ ainsi, et c'est valable également pour les moins jeunes. L'Esprit Saint qui a quitté le peuple élu, inspirant les auteurs des Saintes Écritures, ouvre le cœur des croyants à l'intelligence de tout ce qu'elles contiennent. L'Esprit lui-même est activement présent dans la célébration eucharistique, lorsque le prêtre prononçant in persona Christi les paroles de la consécration change le pain et le vin en corps et sang de Christ pour qu'ils soient nourriture spirituelle des fidèles. Pour avancer dans notre pèlerinage terrestre vers la patrie céleste, nous avons donc tous besoin de nous nourrir de la parole et du pain de vie éternelle inséparable l'un de l'autre. Le pape disait « Chers jeunes, je vous exhorte à devenir des familiers de la Bible, à la garder à portée de la main pour qu'elle soit pour vous comme une boussole qui indique la route à suivre. En la lisant, vous apprendrez à connaître le Christ. » L'avertissement de Saint Jérôme au IVe siècle garde donc toute son actualité, puisqu'il disait « Celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas la puissance de Dieu, ni sa sagesse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » De même, Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique « Novo Millennio », 6 janvier 2001 déclare, et surtout il y a l'évangélisation et la catéchèse qui prennent donc une nouvelle vigueur, précisément lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, disait Jean-Paul II, il faut consolider et approfondir cette perspective en diffusant aussi le livre de la Bible dans les familles. Il est nécessaire en particulier que l'écoute de la parole devienne une rencontre vitale, selon l'antique et toujours actuelle tradition de la Lectio Divina, permettant de puiser dans le texte biblique la parole vivante qui interpelle, qui oriente et qui façonne l'existence. Nous nourrir de la parole pour que nous soyons des serviteurs de la parole dans notre mission d'évangélisation, c'est assurément une priorité pour l'Église au début de ce nouveau millénaire. Dans Dei Verbum, autre déclaration, dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Conversation qui peut être chuchotée même tout à l'heure. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors, ces mots s'appliquent parfaitement à la Sainte Écriture, elle est vivante donc et efficace, la parole de Dieu, qui a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
Alors, si nous écoutons encore un peu de la réponse de cette parole de Dieu, voici quelques extraits de la Bible, livre un peu en bloc. Mais c'est vrai que ce qui est important de relire un peu tous ces passages-là, c'est que quand on dit effectivement que Dieu murmure, c'est vrai que de temps en temps, enfin, c'est Dieu qui murmure, c'est peut-être un peu nous aussi qui avons les oreilles bouchées. Donc voilà, quand on a l'impression parfois que la prière est difficile, que ce caractère avec Dieu est difficile, c'est vrai que c'est une grande richesse, une grande force de pouvoir s'accrocher à la Bible. Alors dans le livre de Baruch, qui nous dit « Quiconque la gardera, vivra, quiconque l'abandonne, mourra. » L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit aussi « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. » Ce qui fait dire à Benoît XVI qu'il convient de prendre au sérieux l'exhortation à considérer la parole de Dieu comme une arme indispensable au combat spirituel. Elle agit efficacement et porte du fruit si nous apprenons à l'écouter, puis ensuite à lui obéir. Parce que là, on parle souvent de notre chapelet, c'est plus facile à l'avoir dans la poche de la Bible, mais voilà, c'est vrai. D'avoir toujours le Bible. Dans les psaumes, une lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. Et puis cette phrase de Matthieu que nous avons déjà entendue hier, tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique, dit Jésus, est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. Dans Saint Luc, une femme éleva la voix au milieu de la foule et dit à Jésus, heureux la femme qui t'a engendré et allaité. Mais Jésus répondit, bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et Saint Jean qui nous dit, vous scrutez les Écritures, or ce sont elles qui me rendent témoignage. Et encore, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Puis dans l'être de Pierre, en effet, vous êtes né de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. La parole de Dieu demeure pour toujours. Voilà, tout ce qui nous rappelle à quel point la parole est vraiment aujourd'hui, cette parole de Dieu pour aujourd'hui.
Alors après toutes ces citations, on a bien compris l'importance des fondamentaux, l'importance de construire sur le roc. Ça a été dit plusieurs reprises par Pierre Bernard. Alors là, je vais passer à ce que j'appellerais un écran publicitaire pour vous donner maintenant les moyens d'accès à la parole de Dieu, sachant que c'est pour mieux les transmettre. On a beaucoup parlé de la transmission de la foi et dans les témoignages que vous avez entendus en famille pour les enfants. Notre architecte philosophe a fait une allusion également à la vie professionnelle et aux associations de la façon de transmettre la foi partout où on se trouve, partout où on vit. Donc les moyens de transmettre la parole de Dieu, c'est d'abord, on vient de l'entendre, la Bible, c'est toutes les citations qui viennent d'être citées. Le catéchisme de l'Église catholique, dont on a bien entendu hier que les quatre fondamentaux de la foi reprenaient les quatre chapitres. Au passage, j'ai bien aimé, merci Père Bernard, les quatre verbes qui s'y rattachent. Croire, vivre, pour ce qui est des commandements, faire pour les sacrements et espérer pour notre paix. Ces quatre verbes correspondent aux quatre chapitres. Et ça peut aussi correspondre à une indication, une exhortation à transmettre la foi partout où on peut se trouver. Le catéchisme de l'Église catholique explique « Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. » On a parlé effectivement d'obéissance, et on parle également là d'action. Parce que finalement, la parole sans les actes, ça ne suffirait pas. Hier, sur Philippines, on nous a carrément dit « Soyez acteurs et pas consommateurs ». J'espère que vous avez bien entendu, parce que c'est une belle exhortation à agir. Moi, j'ai l'habitude de dire, dans le catéchisme de l'Église catholique, on prend le menu, c'est pas la carte. Il y a beaucoup de catholiques aujourd'hui qui disent « Ok, je prends le chapitre 12 et la page 227, la 225 ne me convient pas, je ne l'apprends pas. » Bien non, effectivement, la vérité et les fondements de la foi, comme l'a dit Père Bernard, c'est on achète l'ensemble du programme, mais on ne le sélectionne pas. Et c'est d'autant plus facile après, de ne pas en être trop consommateur, mais véritablement acteur. Le catéchisme de l'Église catholique met bien cela en évidence. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout, il n'y a pas d'autre parole que celle-là. C'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Cela nous rappelle bien sûr le début de l'Évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Au numéro 103 aussi du catéchisme de l'Église catholique, l'Église a toujours vénéré les divines écritures comme elle vénère aussi le corps du Seigneur. Elle ne cesse de présenter aux fidèles le pain de vie pris sur la table de la parole de Dieu et du corps de Christ. Je voudrais aussi être un promoteur de la doctrine sociale de l'Église, puisqu'en fait c'est un document qui existe en plusieurs versions. Vous avez des versions courtes, style compagnon, qui est très important puisqu'elle traduit de façon concrète toutes les façons de se conduire en tant que chrétien et vecteur et acteur de la parole de Dieu partout où on peut se trouver. Et d'ailleurs, les premiers mots de la doctrine sociale de l'Église, c'est assez amusant quand on a fait notre recherche sur ce thème, c'est parole de Dieu et parole sur Dieu. L'Évangile est aussi une parole sur l'homme et sur la société. Elle est donc pour l'homme. Je répète, c'est important. Parole de Dieu et parole sur Dieu. L'Évangile est aussi une parole sur l'homme et sur la société, elle est donc pour l'homme. Aussi, tout en respectant l'autonomie des réalités terrestres affirmées au Concile de Vatican II, l'Église a toujours considéré comme partie intégrante de sa mission d'affirmer les valeurs qui permettent à notre société d'être humaine et équitable. Le livre des Actes des Apôtres en témoigne à ses commencements, puis les écrits des pères et des théologiens chaque fois que le monde a connu de profondes mutations sociales. La doctrine sociale est de nature théologique et spécifiquement théologique ou morale, s'agissant d'une doctrine destinée à guider et à conduire la personne. Elle se situe à la rencontre de la vie et de la conscience chrétienne avec les situations du monde. Après que l'on vous ait traité à la fois de progressiste, d'intégriste, moi je vous dis qu'avec la doctrine sociale de l'Église, vous serez également écolo et parfois syndicaliste de Dieu. Donc c'est vrai que dans les moyens d'accès à la parole de Dieu, la doctrine sociale de l'Église, procurez-vous-la, c'est facile d'accès, c'est contributif, spécialement, là on va parler en tant que parent d'enfant adulte. Parce que comme c'est du concret, ça parle aussi beaucoup. Donc, en fait, les commandements de Dieu sont des moyens de s'ouvrir au bonheur dont Dieu veut combler son peuple. Ce bonheur est disponible, Dieu nous le propose, mais nous avons encore à nous en saisir et à nous l'approprier. Dans le Deutéronome, on peut lire « Vois, je vous donne aujourd'hui, bénédiction et malédiction. Bénédiction si vous écoutez mes commandements de Yahvé, votre Dieu. Malédiction si vous n'écoutez pas les commandements, si vous vous écartez de la voie que je vous prescris. » Et dans le Deutéronome 28, toujours, nous avons la description des bénédictions et des malédictions qui découlent de la fidélité ou de l'infidélité comme des clauses du grâce. Et lorsqu'on parle de bénédiction et malédiction, ça me fait un peu penser à ce que disait Père Bernard hier, qui disait, il y a aussi des loups chez nous, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a aussi des loups déguisés en agneaux, d'ailleurs. Sous couvert parfois de charité excessive, appelée parfois tolérance, on a tendance à voir tout le monde s'aime bien, tout le monde est gentil, et à ne pas dire la vérité. Alors effectivement, comme on vient de le voir, la vérité nous rendra libres. Parce que dans l'Évangile et dans la parole de Dieu, il y a des textes qui sont durs, quand même. Lorsqu'on entend la sainte colère de Jésus qui chasse les marchands du temple, ça fait drôle, quoi. Mais quand on nous exhorte à imiter parfois le Christ, ça veut aussi dire qu'on peut être incité à avoir des colères, si elles sont légitimes. Autre exemple d'un évangile un peu moins connu, c'est un évangile où le Christ est dit « Je suis venu mettre la division dans les familles ». Vous savez, la mère avec la fille, la mère avec la fille, etc. Et parfois, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile parfois à comprendre. Là, je vous exhorte aussi, lorsqu'il y a des évangiles comme ça qui posent question à des enfants, à se raccrocher à des homélies qu'on peut trouver sur Internet et qui donnent des explications très claires de ces évangiles parfois difficiles à comprendre. On vient de voir l'importance de la connaissance de la parole de Dieu, c'est bien à la comprendre. Voyons maintenant l'écoute pour s'en imprégner, y croire, c'est la foi. Comprendre pour croire, croire pour comprendre, c'était le thème du discours de Benoît XVI sur la foi et la raison au collège de Bernardin. Donc l'écoute profonde, c'est celle du cœur. C'est Saint-Exupéry qui disait dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Pour la Bible, on pourrait dire on écoute bien qu'avec le cœur. Écouter et obéir, deux verbes qui ont la même racine, ob, odire. C'est-à-dire se mettre sous la parole de l'autre et du tout autre, se laisser nourrir par elle pour aller plus loin que soi, dans une désappropriation de soi et de communion avec autrui, et ainsi croître selon Dieu. Au passage, on a un bon exemple d'obéissance ce matin, puisque si Frédéric et Anne-Marie n'obéissent pas à leurs parents pour partir à Paris Monial à la place de Saint-Tropez, un, ils ne se rencontrent pas, deux, il y a plus grave, ils ne témoignent pas. Nous allons donc citer deux passages du Deutéronome, qui est le texte le plus révélateur de l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. Ce texte nous donne des conseils concrets pour vivre les desseins de Dieu sur nous et répondre à ses appels. L'écoute est un terme récurrent dans la Bible. Nous pourrions dire essentiel au point où l'écoute devient une adhésion profonde à la parole de Dieu. Dieu nous éduque. Du ciel, il t'a fait écouter sa voix pour t'éduquer. Sa parole est notre chemin de conversion. Notre écoute de Dieu suppose une réelle proximité avec lui. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Nous avons aussi dans le Deutéronome une dizaine de fois l'impératif écoute adressé à Israël, ce qui indique fortement l'importance de cette injonction. Cette exigence de Dieu a pour but le bonheur. Tu écouteras Israël, tu seras attentif à accomplir ce qui te fera du bien et te multipliera. Le simple bonheur naturel est inclus dans ce projet bienveillant de Dieu, tout en le débordant et en se transmettant aux générations futures. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Une étymologie populaire du nom de Samuel fait même dire à ce prénom celui qui écoute Dieu. Il y a dans cette attitude de Samuel une attitude d'obéissance. Le verbe écouter peut aussi se traduire par obéir. On vient de vivre une très belle année sacerdotale. Nous pouvons revenir à l'appel de Dieu envers Samuel. Les serviteurs que Dieu appelle ne pourront répondre que s'ils l'écoutent. Cette écoute de Samuel est également un appel à la vocation.
Pour transmettre, quel moyen concret ? L'écoute, comme on vient de dire, l'écoute est indispensable à l'exercice de la justice et de l'autorité. L'écoute est d'abord une manifestation de la capacité à entrer en dialogue. Il faut écouter et se faire écouter. Ne peut répondre que si on a écouté. Quand écouter et se répondre, c'est donc le dialogue, dialogue avec les autres et dialogue avec Dieu. Et dans toute forme de vie, au-delà même de la famille, dans la vie professionnelle, associative, nous avons aussi quelque chose à transmettre de notre foi. Donc voilà, on écoute, on reçoit et après on peut répondre avec ce qu'on vit, avec les connaissances qu'on peut avoir, les formations. Soit ici, grâce au Domini, il faut s'en servir pour transmettre aussi tout ça. Donc c'est aussi témoignage dans la vie professionnelle, dans la vie étudiante, on voit bien avec tous nos jeunes, tout ce qu'ils ont à transmettre, c'est souvent une souffrance aussi pour eux. Mais voilà, c'est aussi une richesse pour eux de pouvoir avoir reçu par tout ce qu'ils ont pu entendre, écouter, notamment ici avec les Dominis, et pouvoir justement témoigner de ce qu'ils ont entendu et reçu. Nous ne sommes pas chargés dans la vie professionnelle, étudiante, associative, nous ne sommes pas chargés d'éduquer comme nous sommes chargés avec nos enfants, mais nous avons le devoir de témoigner. C'est le témoignage de notre vie de foi qui nous permet de transmettre notre foi. Et nous devons la transmettre en faisant bien réaliser aux gens à quel point c'est une force et une joie de la foi, comme nous avons la joie de la foi. C'est une richesse dans nos vies. Nous recevons tous des questions et nous devons essayer toujours d'y répondre, d'apprendre un temps en disant là je ne peux pas, donc je vais réfléchir, je répondrai demain, je répondrai après-demain, je vais d'abord. Parce que voilà, il y a des questions auxquelles c'est trop difficile, pour lesquelles on ne se sent pas apte à répondre. Donc voilà, il faut toujours appeler un peu au secours un frère, une sœur, si. Mais voilà, toujours revenir aux questions que nous avons posées pour y répondre. Ou l'importance de nous former. Et maintenant, pour revenir aussi un petit peu plus spécifiquement dans nos familles, l'importance de Jésus au cœur de nos familles. Jésus qui vit au milieu de nous. Nous lui parlons dans la prière. Nous le regardons par tous les moyens que nous avons dans nos maisons. Images, statues, évangiles, points prières. Nous en avons, voilà, vous voyez, amis, on en parlait. C'est vrai qu'un jour, j'ai un des enfants qui a râlé en disant qu'on était en train de faire de notre maison une église. Parce que quand j'ai répondu, écoute, quand vous n'êtes pas là, que je suis toute seule à la maison et que je bosse toute seule, et que je fais mon boulot de vous faire, de famille, tout ça, je suis bien contente d'avoir quelqu'un qui parlait. Donc voilà, là, c'est Saint-Joseph, là, c'est Saint-Marie, là, en plus en France, j'ai eu Prague, etc. Donc, très important. Je ne me sens jamais seule dans une maison qui est bien habitée par ces représentations de nos saints. Et puis apprendre à parler simplement à Jésus, que nos décisions se fassent sous son regard. Nous essayons d'agir au mieux dans nos devoirs d'État, dans tout ce que Jésus nous confie au jour le jour. Il faut arriver à faire de Jésus une présence pour nos enfants, une présence efficace et apaisante. Une force, une réalité dans le cœur de chacun et dans le cœur de la famille. Quand une maman embrasse son tout petit le soir dans son lit, elle l'apaisera beaucoup en lui rappelant que Jésus ne le quitte jamais, que la Vierge Marie est sa maman du ciel qui le protège à chaque instant. C'est vrai que c'est arrivé de faire partir un enfant inquiet en classe avec une image de la Sainte Vierge, c'est très rassurant. Tu sais, je raconterai, une petite anecdote, c'est. J'avais un enfant qui avait 4 ans, à peu près, 4-5 ans. Et son doudou du soir, c'était une statue de Notre-Dame-des-Neiges en plastique, c'est phosphorescente. Et puis un soir, je vais dans la chambre pour embrasser. Et puis, j'entends, oh maman, nos enfants nous voient. Donc j'entends, oh maman, je vous aime. Oh maman chérie, vous êtes la meilleure des mamans. Oh, enfin, une déclaration d'amour que vous imaginez pas. Alors, vous savez, c'est ouf, il ne faut pas entendre ça, peut-être. Puis je rentre tout doucement dans la chambre et puis je le vois me dire « Qu'est-ce que ça fait du bien de parler avec la Sainte Vierge ?» Alors là, mon cœur de mère, dans son humanité, a eu un petit pincement, même un peu de sueur. Mais mon cœur de mère, dans la foi, a été comblé. Et j'ai dit « Bah oui, tu as raison, c'est la meilleure des mamans. » Et c'est vrai que nos enfants petits disaient toujours « Il y a deux mamans, hein, les meilleures mamans, alors désolé, c'est pas vous la meilleure, c'est quand même la Sainte Vierge, mais quand même vous êtes en deuxième. » Je dis « Bah oui, c'est vrai. » Important et la Sainte Vierge en plus ne te quittera jamais. Moi je te quitterai un jour, la Sainte Vierge ne te quittera jamais. Voilà, et je pense que c'est très très rassurant. Et voilà, tout comme c'est vrai, on est beaucoup revenu à la prière en famille, la prière du soir, et voilà, c'est des moments merveilleux en famille quand les enfants sont petits, et puis pouvoir après prier avec eux seuls quand ils sont plus grands. Donc nous maintenant, on a des enfants plus grands, pouvoir prier seul à seul avec l'un ou l'autre de temps en temps, c'est aussi des moments bénis. Mais c'est vrai que j'ai toujours insisté aussi, c'est dès que le soir, après le chapelet, quand on disait bonsoir aux enfants, leur dire « Maintenant, tu es tout seul avec Jésus, donc tu lui parles. Parle avec Jésus, c'est ton secret avec Jésus. » Qui s'approprie justement ce lien très fort entre Jésus et... ce cœur à cœur et ce secret un peu entre eux avec Jésus. Jésus peut entendre tous les secrets, peut-être que, voilà, les parents, c'est peut-être plus difficile, mais Jésus peut entendre tous les secrets. Voilà ce qu'on avait déjà dit ici plusieurs fois, l'attitude des parents avec un enfant conditionne beaucoup sa relation à Dieu. Et un enfant petit qui apprend à discuter en confiance avec ses parents apprendra aussi à vivre en confiance avec Dieu. Et on revient toujours, ça c'est un peu notre devise, mais la confiance et l'obéissance. Et voilà, un enfant dans la discussion, on peut discuter, on peut s'écouter, mais on en revient toujours à l'obéissance. Le silence de la maison, tout au moins une maison calme, ce qui ne veut pas dire une maison triste. Un bon fou rire n'est pas un bruit gênant. C'est important, un bon fou rire. Limiter effectivement les bruits extérieurs, surtout la télévision, la radio. Même si à un certain âge ils ont besoin de musique, arriver à dire, on entend la musique qui tourne, au bout d'un moment il y a un bon stop, le travail en musique c'est pas bon, et tout le temps il faut, on arrête un petit peu. Et voilà. Les gens doivent prendre conscience de l'importance et des bienfaits de la qualité du silence. Alors pour ça, qu'est-ce que les Dominiques nous demandent? C'est pas toujours évident hein, pour nos familles, mais c'est vrai que on est à bonne école avec les Dominiques pour prendre conscience de la qualité du silence. Dieu peut se rendre présent de multiples façons, mais c'est dans l'écoute du silence que nous sommes le plus à même de l'accueillir. Dans notre directoire, alors on en revient vraiment dans notre directoire des foyers amis, parce que c'est quand même tout ce que le Père nous a transmis. Alors, c'est vrai, quand on fait un petit peu voilà, nos témoignages ici, on aime bien citer des parties de notre directoire, parce que nous, c'est la parole du Père pour nous aussi. Donc voilà, on le partage. Alors, dans le directoire, le Père nous donnait un petit peu comme exercice spirituel qu'il désirait pour nous. Selon les appels réitérés de la Sainte Vierge en faveur du rosaire, les foyers amis de Notre-Dame sont invités à réciter chaque jour un chapelet en méditant les rosaires. Ceux qui le pourront et le voudront, les mystères, qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'avez pas un mystère. Ceux qui le pourront et le voudront feront davantage, seuls ou en commun. La participation au Saint-Sacrifice de la Messe est aussi très riche de grâce, même en dehors des jours d'obligation. Un temps de méditation ou oraison pourra être prévu, même dans une vie bien occupée, si on le veut vraiment. Un temps de réflexion permet aussi de prévoir ses activités, ce qui doit assurer la maîtrise de sa vie et permettre de dominer son travail au lieu de se laisser dominer par lui et de succomber à l'agitation dans l'action. Il sera très bon aussi de s'assurer dans la semaine des temps de lecture spirituellement nourrissantes. Les époux doivent se soutenir dans cet effort de prière. Bon, alors, ce qu'on rappelle quand même, c'est que notre directoire est un guide de vie, c'est pas quelque chose qu'on possède top du jour au lendemain. Donc voilà, c'est toute une aide que le Père nous donne. Et puis on conclura par cette prière que Saint Augustin a élevée à Dieu dans les confessions pour obtenir la compréhension de la parole de Dieu. C'est le dernier mot qu'on donne à Saint Augustin. Que vos écritures soient mes chastes de délices. Que je n'y trouve ni à m'égarer ni à égarer les autres. Voyez mon âme, entendez ces cris au fond de l'abîme. Faites-moi largesse de temps pour méditer les secrets de votre loi. Ne la fermez pas à ceux qui frappent. Ô, votre parole est ma joie. Votre voix m'est plus douce que le charme des voluptés. Donnez-moi ce que j'aime. Ne dédaignez pas votre pauvre plante que la soif dévore. Je frappe à la porte de vos paroles saintes et que la grâce m'ouvre leur sanctuaire. Je vous en conjure par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est lui que je cherche dans vos livres saints.